Cécile Barra.
Et nous quittons le studio 159 de la Maison de la Radio à Paris pour partir en Afrique de l'Ouest, où se trouve le troisième plus grand fleuve du continent, le fleuve Niger, véritable colonne vertébrale de toute la région. Le Niger s'étire sur plus de 4000 km, une grande boucle qui va de la forêt au Sahel, traverse le sud du désert saharien pour finalement se jeter en mer dans le golfe de Guinée. Mais ce fleuve est victime de l'avancée du désert et les pays du bassin ont décidé de coordonner leurs efforts pour fixer les dunes et empêcher l'ensablement du fleuve Niger. C'est un reportage de Clémentine Genevrier.
On est sur le bord du fleuve Niger, à Gao, dans l'est du Mali. Il y a des centaines de pinasses qui attendent sur le bord du fleuve et des centaines de personnes qui attendent pour prendre leurs pinasses, pour traverser le fleuve. Des ânes, des charrettes, des bidons d'eau, beaucoup de motos au Mali. Qu'est-ce que c'est ça?
Ça là.
Qu'est-ce que c'est?
Ça là, c'est lui
qui
a mangé. Tu n'es pas mangé.
Moto.
Moto. C'est lui
qui
va manger. Vache. C'est lui qui va manger.
Pour les animaux. Ça s'appelle comment?
Bourgou.
Bourgou. Et on le trouve où? De l'autre côté du fleuve? On assiste à Gao sur le fleuve Niger au déchargement de centaines de kilos de bourgou.
C'est des bourgous qui viennent d'arriver aussi. C'est une plante qui protège l'intérieur du fleuve et les berges, si bien que les digues. C'est une plante qui a une multiple fonction. Elle sert d'habitat pour les poissons, pour les grands mammifères tels que les hippopotames. Les oiseaux aussi vivent du riz de bourgous. L'homme tire de la plante une boisson qu'on appelle le manchi, que l'on peut transformer en katou. C'est le bourgou a toutes ses vertus là. Donc ce bourgou là est menacé de disparition suite aux aménagements hydro-agricoles.
Et le bourgou, on le trouve uniquement sur les berges du fleuve?
Uniquement sur les berges du fleuve et dans le lit du fleuve. Bon, c'est tout ce que vous voyez comme champs comme ça, c'est des... Le bourgou était naturel, mais actuellement il faut même le régénérer. Tellement qu'il a disparu et on a transformé toutes les bourgoutières en rizières. Et c'est là le problème. Et donc la diversité du fleuve est complètement menacée avec la disparition du bourgou. Et tu vois que les gens sont en train de se préparer. Ils viennent d'arriver des villages. Chaque matin, ces pirogues arrivent ici. Ils viennent faire le marché. Donc c'est un fleuve qui est menacé. C'est un fleuve qui est menacé par l'ensablement.
Donc je croyais que le fleuve Niger, à ce niveau-là, était beaucoup plus bas, était beaucoup plus asséché.
Bon, peut-être en avril-mai, tout cela va se transformer en plage.
Il n'y aura plus du tout d'eau.
Il n'y aura plus du tout d'eau. En ce moment, on traverse à pied. Les pinasses que vous voyez vont faire le tour pour s'amarrer jusque de l'autre côté. Tout cela est dû à l'ensablement du fleuve. Il y a une succession de dunes le long du fleuve qui ensable le fleuve.
Ça y est, la pinasse arrive.
Ouais, la pinasse arrive. Attention. safa. On va vers Koshakari. Koshakari, c'est un village situé dans la commune Sonia Liber, qui est situé le long du fleuve. C'est un village songhaï où l'ONG Tamala a eu à faire une fixation de dunes, fixation mécanique et biologique. Bon, la fixation de dunes, ça protège le fleuve. Donc, cette fixation se fait avec une plante qu'on appelle le Leptardinia pyrotechnica. Ça permet de fixer la dune, la stabiliser et l'empêcher de se mettre en mouvement. Donc, c'est comme ça que ça se passe.
On va voir.
On va expliquer les techniques de fixation de dunes mécaniques et biologiques.
Très bien, chef.
Ouais. Merci, chef.
Tous ces gens qu'on croise dans les...
Ils viennent des villages, ils viennent faire le marché. Ils retournent le petit soir. C'est le village de Poima, Chirisoro, Lobou. Vous voyez que le fleuve, tellement que c'est ensablé, la pinasse ne peut pas... Il est obligé de choisir des lieux. Il est obligé de choisir des lieux pour pouvoir circuler.
La plupart des gens qui habitent ici prennent plutôt des pirogues alors?
Oui, ils viennent parce qu'ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin, c'est des villages qui se trouvent très proches de Gao. Donc chaque matin, ils viennent faire le marché. Ils viennent aussi vendre leurs produits parce que les femmes font des activités génératrices de revenus. Ils viennent vendre les nattes et d'autres produits, quoi. Et le soir, en retournant, ils payent les condiments, tout ça là pour retourner.
Alors, depuis combien d'années on lutte contre l'avancée du désert dans cette région?
Ça fait belle lurette. Au début, c'était seulement... Les populations n'étaient pas impliquées dans cette lutte, quoi. Donc, c'est maintenant qu'on a adopté une nouvelle approche, en travaillant avec les communautés, en impliquant les communautés dans les actions de lutte contre la désertification, à travers la sensibilisation, l'information, tout ça. Et la grande majorité de cette activité s'est fait avec les ONG, les associations, les projets, les grands projets, et puis les organisations internationales. Ils mènent des missions de sensibilisation pour une prise de conscience environnementale des communautés. Quoi. Nous sommes dans l'environnement depuis 10 ans. Mais avant nous, on a trouvé d'autres actions menées dans ce domaine. Quoi. Un moment, nous avons proposé qu'on reboise vers le nord, de ce côté, puisque la majorité du vent vient de cette direction. Donc en reboisant, ces arbres vont servir de brise-vent. Donc vous voyez, donc ça va contribuer quand même à freiner le sable, quoi.
Qui
arrive du Sahara. Parce que moi, pour moi, tout ce sable-là vient du Sahara. Hein? Et puis s'entasse derrière le fleuve. Et donc, petit à petit, ça descend dans le lieu du fleuve et puis le fleuve sans sable. Ils ont fait beaucoup de reboisements vers le nord aussi. À côté de Gao, à la rentrée de Gao, en allant vers Bourem, il y a des grands espaces reboisés en eucalyptus. Sur la route aussi du Niger, sur Ansongo, il y a aussi des grands espaces.
Alors je sais que l'eucalyptus a été choisi parce qu'il a été testé, il résiste bien dans le désert.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres arbres comme ça qui ont été choisis dans la région pour lutter contre l'avancée du désert?
Oui, bon, il y a les essences locales. Il y a le balanites qu'on utilise aussi, mais pas... Le balanites est utilisé dans la fixation biologique. Il y a le prosopis. Tous ceux-là sont utilisés dans la fixation biologique.
Là, on arrive au pied d'une dune.
Ouais, on va descendre. C'est ça le Leptardinia. pyrotechnique. C'est avec ça qu'on fixe. Tu vois les graines là, qui sont là-dessus. Une fois que ces graines là tombent avec l'aide de la pluie, ça régénère encore. Mmh. Et donc ça devient biologique, automatiquement. On amène les fagots de l'heptadénia qu'on éparpille d'abord sur la dune. À l'aide d'une corde, on fixe des piquets. On fait des trucs comme ça, tu vois. Et à l'intérieur de ça, on prend...
Ouais, on fait des tranchées.
Voilà, on fait des tranchées et puis on met à l'intérieur les leptadénia. Donc tout en laissant des parties pour l'air. Et on forme des quadrats avec ça. Des quadrats de 5 mètres sur 5 ou 7 mètres sur 7. À l'intérieur de ces quadrats, on met des plans. Bon, parce que la première phase, c'est la fixation mécanique. Ça, c'est les quadrats seulement qu'on forme en papier du leptadénia séché.
C'est une plante en boule,
ouais,
qui pousse en boule,
ouais,
avec des graines.
Oui, oui. Mais ça peut grandir, ça peut dépasser ça. Donc, on fait des quadrats avec ça. Et à l'intérieur des quadrats, on met des plans.
Là derrière nous, on a l'exemple de dunes qui ont réussi.
Ouais, 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 ouais. Ça, c'est des dunes, c'est une fixation mécanique avec un semencement. Tu vois que ça a bien poussé. On a semencé et puis avec la pluie, ça va. Quand c'est stabilisé, ça devient dur comme ça et que tu arrives à marcher là-dessus, vous pouvez mener des activités d'agriculture, d'autres choses là-dessus. Maintenant, avec la prise de conscience, les gens se sont rendus compte que le fleuve, c'est un fleuve international. Ça n'appartient pas seulement au Mali. Il y a des affluents qui passent par le Burkina, il y a d'autres qui vont jusqu'au Cameroun. Donc il fallait protéger ce fleuve. On a créé même une institution qui se charge de ça, une institution africaine qu'on appelle l'autorité du bassin du fleuve Niger. Ils se sont rendus compte du danger sans ce fleuve-là. Comme le Nil ou l'Égypte, sans ce fleuve-là, le Mali n'était qu'un immense désert aussi. Parce que ça traverse tout le Mali, ce fleuve-là. C'est complètement sablé. C'est bien quand tu vois ce résultat-là. Ce que, même après le projet, on a continué le suivi. On vient parfois, on fait une semaine avec les communautés. On les encourage.
On arrive sur le toit du monde, là, en haut de la dune.
Et on voit la beauté de l'île.
Sublime.
Le désert derrière.
Tu vois, le leptadénia, ça pousse naturellement. On a fixé de ce côté aussi.
Et là, on est sur la crête de la dune et elle tient.
Ouais, ouais.
On ne s'écroule pas.
S'écroule pas. Ils ont planté beaucoup d'arbres. Ils font des choses extraordinaires. Nous sommes peut-être à 20 mètres. Il y a moins de sable dans cette partie du fleuve. Il y a moins de sable. Sinon, quand on venait partout, il y avait des plages de ce genre. C'est très important.
On va voir les gens du village. On redescend la dune sur les berges du Niger. Il y a des enfants, des femmes qui font la lessive dans l'eau ou qui se lavent.
Hé, Orgaban. Orgasam. Alhamdoulilah.
Alhamdulillah. Kaleke.
Oui.
Bon bé.
Voilà bé.
C'est lui-même qui était le président du comité de gestion des activités de Tamala. Ici, il s'appelle Lusha Mama.
Lusha Mama.
Ouais, ouais.
Et alors, sur le long terme, qu'est-ce que ça a changé, cette fixation de dunes ?
Il dit que c'est formidable qu'il ait eu beaucoup d'avantages parce qu'aujourd'hui, le sable même stabilisé, même pour d'autres acteurs qui ont passé ici, ils ont apprécié à plus forte raison eux-mêmes. Ils sont très contents de cette fixation. Il dit qu'ils souhaitent quand même reboiser encore. Parce que les premiers reboisements ont vraiment stabilisé, ils ont vu vraiment l'intérêt de la fixation. Ils souhaitent quand même encore mettre d'autres arbres, quoi, pour que ça puisse vraiment continuer à se stabiliser.
Et le sable alors ne descend plus dans le fleuve Niger.
On est voilà la bouchée Kado Issara.
La bouchée du Issara, quoi. Parce que anka kanade soin d'abord cool.
Il dit que tu as vu là-bas, que je n'ai pas pu t'expliquer, parce qu'il dit que c'était très bien stabilisé et le sable cette fois-ci, au lieu de descendre vers le fleuve, ça va de l'autre côté. Donc vraiment la partie là quand même est stabilisée et que ça n'ensable plus le fleuve.
Et alors de ce côté-là de la dune justement, est-ce que en tant qu'agriculteur, il peut imaginer avoir des champs ici sur cette dune là?
Il dit effectivement c'est des initiatives, des alternatives initiatives qu'il compte entreprendre, c'est-à-dire de faire soit l'agriculture ou bien du maraîchage à la place des dunes là. Ils sont un peu surchargés et parfois aussi il y a les moyens aussi qui manquent parfois pour certaines activités de grandes envergures.
Mais là, est-ce qu'il faudrait attendre que la dune soit encore plus stabilisée et plus dure pour cultiver et apporter de la terre ?
Effectivement, ils préfèrent que ça stabilise et que les dunes même qui sont à côté puissent être très bien stabilisées. Parce que c'est une fois que c'est très bien stabilisé, en ce moment, ils vont entreprendre d'autres activités.
Pour l'instant, vous cultivez où, monsieur ?
C'est là qu'ils sont, ce que tu vois devant vous.
De l'autre côté du Niger.
Dit que ces arbres-là que tu vois, c'est des fixations de dunes biologiques qu'eux-mêmes ils ont entrepris. Sur ce fleuve-là, les communautés, toutes leurs activités se passent dans le fleuve. Les pêcheurs sont là-dedans, les agriculteurs, les bourgoculteurs. Une fois le fleuve ensablé, je pense que ces communautés ils sont obligés de se déplacer, ils sont obligés de voyager, ils ne peuvent plus rester ici, ils vivent du fleuve. Ils vivent du fleuve. Toutes les activités de ces communautés, c'est à l'intérieur de ce fleuve. Tu vois les pinasses qui vont à Tombouctou, les villages, tout ceci-là. Hein, quand ça s'ensable, ça va un jour disparaître. Donc si les gens ne font pas attention, donc ça va occasionner un changement, déplacement des communautés, tout ça quoi.
Donc là vous continuez votre travail de sensibilisation auprès des populations ?
Oui. Nous continuons à élaborer des projets que nous soumettons aux partenaires. Nous continuons aussi à sensibiliser les acteurs étatiques, tout ça, les autres organisations de la société civile, de l'importance de ce fleuve, quoi, dans la vie économique, sociale, culturelle. Il faut que ça continue, hein. Il faut que ça continue, mais pour sa continuité, il faut que tous les acteurs soient vraiment impliqués. Actuellement, on se bat pour que nous soyons impliqués dans les grands débats de la nation. Mali sabero irga fo mandani
Mali sorke wami
Mali sorke he warkan nirhu namza yer wero C'est-à-dire que nous sommes fiers du grand fleuve Niger. Nous sommes fiers du grand fleuve Niger et il cite les différentes activités que l'on mène sur le fleuve et les acteurs qui mènent ces activités. Il remercie le fleuve. Il remercie le fleuve parce que c'est grâce au fleuve que les bateaux quittent de Koulikoro jusqu'à Gao. Il remercie le fleuve parce que le fleuve procure du poisson. À travers le fleuve, il chante pour les agriculteurs. Parce qu'il trouve que les agriculteurs, tout ceci-là, c'est dans la baraka du fleuve que tout ceci-là arrive à survivre. Donc, c'est presque les louanges, il fait des louanges au fleuve. Mali Sabero Irga Fomandani. Mali Sorkeye, Pakani Runanda.
There is suffering in the streets, in the streets. Our leaders say, let it be, let it be. We the people don't agree. For this suffering, there is no need. But they'll wait until there's a revolution. Revolution everywhere. Burning of property. More homeless people lying in the streets.
Come on.
sablement du fleuve Niger. C'était un reportage de Clémentine Genevrier. Demain, nous partirons en Équateur, où le gouvernement a lancé une initiative originale pour un pays pétrolier. Une demande de compensation financière internationale pour ne pas exploiter une réserve de pétrole qui se trouve au cœur de la réserve mondiale de biosphère du Yasuni. Ce sera un reportage d'Éric Sanson. À demain, donc, même planète, même heure.